nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, bienvenue pour le second focus sur une série de quatre dédiée à l'académicien Léopold Sédar Senghor. Cette fois, nous allons aborder des thèmes qui lui étaient chers. Sa passion pour la langue française, la francophonie, mais également le thème de la négritude, l'africanité, la francité. Et pour en parler avec nous, Madame Liliane Kestelot, qui nous a rejoint. Madame Liliane Kestelot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans le studio de Canal Académie. Vous êtes professeure à l'Université de Dakar en littérature africaine, littérature comparée. Et vous êtes également chercheure en littérature orale. Vous allez peut-être même pouvoir nous toucher deux mots, puisque nous, c'est vrai qu'en Occident, la littérature orale, ça nous parle pas vraiment. Mais tout d'abord, juste avant de commencer, est-ce que vous avez connu Léopold Sédar Senghor et comment vous l'avez connu?
Ah, mais j'ai connu Léopold Sédar Senghor, ça fait quand même assez longtemps maintenant. C'était autour des années 59 et je faisais à l'époque ma thèse sur, précisément, les écrivains de la négritude. Les écrivains noirs, tout simplement. C'est donc Césaire qui m'a, Aimé Césaire qui m'a amené chez Senghor, à l'avenue de Tocqueville, où il habitait avec son épouse et le dernier de ses petits-enfants qui venait de naître, le petit Philippe.
Philippe Senghor?
Oui. Et c'est donc là que la première fois, Senghor, ravi de voir qu'on allait faire une thèse, je crois que c'était la première, qu'on allait faire une thèse sur ce mouvement littéraire et culturel, plus que littéraire, oui. Culturel et même politique, qui était tout ce mouvement de la négritude, qui avait été donc porté aussi par Présence africaine.
Comme je viens de le dire, vous êtes chercheur en littérature orale. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots? Qu'est-ce que la littérature orale, Liliane Kestelot?
La littérature orale, c'est tout simplement ce patrimoine qui est véhiculé par les griots dans l'Afrique de l'Ouest et par tout un chacun, presque, dans le reste de l'Afrique. D'après les genres, par exemple, ce sont les vieillards qui connaissent les mythes de fondation, les mythes dynastiques, etc. Ce sont les femmes, et surtout les vieilles femmes qui connaissent les contes. C'est encore les vieillards, les notables, qui connaissent le mieux les proverbes, etc. Il y a aussi une poésie religieuse qui est en particulier faite par, maintenant, par les imams, par les prêtres musulmans, si vous voulez. Et il y a aussi une certaine poésie religieuse animiste, qui est le domaine des prêtres animistes, comme par exemple les prêtres du vaudou, n'est-ce pas, ou certains autres tenants du culte dans les différentes cultures. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Afrique a vraiment plusieurs dizaines de cultures, et que ces cultures produisent chacune un patrimoine oral considérable.
Alors voilà, ce patrimoine oral qui fait partie de la culture africaine et plus largement de la négritude. Un thème dont nous allons pouvoir parler avec vous, Liliane Kestelot, puisque effectivement, vous avez fait votre thèse dessus. Donc, pour le coup, vous êtes la spécialiste qui allait pouvoir nous en parler. Alors, ce thème de négritude est employé pour la première fois par Aimé Césaire, je crois, dans les années 1934-1936.
Oui, enfin, c'est Senghor lui-même qui dit que Césaire, on a, au fond, ils ne savent plus très bien, ni l'un ni l'autre, lequel est le premier à parler de négritude. Peut-être que ça a dû sortir, en effet, pour la première fois dans la bouche de Césaire, qui est un grand fabricant de néologismes. Mais Senghor l'a employé tout autant et beaucoup plus. Beaucoup plus. Parce que la négritude, il en a développé tous les aspects. Et il en a fait une philosophie.
Tout à fait.
Il en a fait même une idéologie, l'idéologie de sa politique. C'est l'idéologie de la politique de Senghor, c'est la négritude. Et donc, on peut dire que ça lui appartient en toute propriété. Mais, comme dit très bien Senghor, tout comme Césaire d'ailleurs, chaque nègre a sa négritude.
Alors parlons tout d'abord de la philosophie de la négritude. Alors que signifie le suffixe « itude » ? Qu'est-ce que vient faire ce suffixe « itude » ? Il traduit un enracinement ? Quelle est sa valeur ?
Je pense que c'est plutôt une forme de nostalgie quand même au départ. La négritude a été ressentie sous deux aspects. L'aspect qui est davantage évoqué, aussi bien par Senghor que par Césaire, dans leur premier écrit, dans leur premier poème, à savoir le cahier de retour au pays natal pour Césaire et Chant d'ombre pour Senghor. J'en ai parlé d'ailleurs dans cette histoire de la littérature africaine. Les premiers usages du mot de négritude, c'est un vécu, ce n'est pas une philosophie. Et qu'est-ce qu'ils entendaient par négritude ? Ils entendent d'abord, comme dit Césaire, le fait d'être noir. Un fait très simple, le fait d'être noir.
Et s'accepter en tant que tel.
Et s'accepter en tant que tel, c'est le deuxième mouvement. Parce que la négritude, on peut la ressentir comme une malédiction, n'est-ce pas ? On peut ressentir le fait d'être noir comme une malédiction. Et d'ailleurs, ça a été dit par certains poètes.
Et parce qu'on nous le fait ressentir comme ça.
Oui, c'est ça.
Fanon disait, le regard du colonisateur.
Franz Fanon disait, c'est le blanc qui crée le nègre. Donc, c'est sûr qu'en Afrique, le noir ne se sent pas noir. La négritude n'existe pas, si vous voulez, sous cet angle-là. Mais il n'y a pas que ça. Donc il y a la négritude subie, on peut dire que c'est peut-être le tu devient peut-être de cette comme solitude ou bien des mots comme ça. Mais il y a donc ce côté subi, ce côté plaqué, je dirais même par le regard de l'autre, qui fait que la négritude est une chose difficile à porter, difficile à vivre. Mais alors, c'est la partie senghorienne. Et la partie senghorienne, c'est le côté positif de la négritude surtout. C'est pour lui, et ça a toujours été comme ça aussi pour lui, parce qu'il est africain, il connaît tout ce qu'il y a dans cette culture noire. Et pour lui, c'est justement, sa définition préférée, c'était les valeurs de civilisation de l'Afrique noire. N'est-ce pas, les valeurs de civilisation de l'Afrique noire. Pour lui, l'ensemble de ses valeurs, c'est ça qu'il nommait sous le nom de négritude. Mais il pouvait aussi bien utiliser, par exemple, négritude pour désigner simplement la couleur de sa peau. On le voit dans certains poèmes, n'est-ce pas, où il dit que au cinéma, les places à côté de lui restent vides en fonction de sa négritude. Donc, du fait qu'il soit noir, tout simplement.
Alors, Jean-Paul Sartre avait, une idée un peu particulière de la négritude. Il disait, Jean-Paul Sartre, que la négritude, c'était le racisme de l'antiracisme. Alors, Senghor disait, non, c'est pas ça. Mais il y avait quand même une mésentente sur ce fond.
La formule est malheureuse. La négritude n'est pas un racisme. N'est-ce pas ? On ne peut pas être raciste quand on se bat contre le racisme. Quand on subit le racisme, n'est-ce pas ? Non, là je crois que la formule était malheureuse. D'ailleurs Sartre, qu'on a après accusé de beaucoup de choses à cause de cette formule, c'est pas ça qu'il voulait dire. Il voulait pas dire que c'était un néo-racisme, parce qu'on est très vite passé de cette idée-là à néo-racisme. Non, et pour Césaire, pas plus que pour Senghor, ça n'a jamais eu de coloration raciste. C'était la défense d'une race attaquée, ce n'est pas un racisme. Alors on peut dire que les juifs aussi sont racistes, etc. Non, on ne peut pas.
Alors justement, ce que disait Senghor, et là je le cite, « La négritude est tout simplement l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. Elle n'est pas racisme, elle est culture. La négritude, telle que nous la concevions en 1930, était une arme de refuge plus qu'un élément de construction. »
Oui, donc d'abord subie.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et elle est devenue élément de construction au fur et à mesure que, d'abord, ils ont réfléchi, ils ont beaucoup discuté autour de tout cela. C'est Senghor le premier, je crois, qui vraiment commence à développer l'idée valeur de civilisation. N'est-ce pas ? Valeur de civilisation, qu'est-ce qu'il entend par là ? Il entend, par exemple, dans différents domaines, sur le plan de l'art. La négritude, c'est ce qui caractérise les productions artistiques des Africains. Par exemple, en musique, le rythme, très accentué, et des rythmes particuliers. Toute musique a du rythme, mais il y a des rythmes qui sont typiquement africains. En art, en peinture, etc., c'est aussi certaines préférences pour certaines couleurs. La stylisation, par exemple. Hein, l'art africain, la sculpture par exemple, n'est pas réaliste. Hein, c'est une sculpture très stylisée qui a d'ailleurs pas mal influencé nos modernes, à commencer par Picasso. Et on a chez Senghor une très bonne connaissance de l'art africain. Il était lui-même excellent critique d'art. Et il avait un goût fantastique. Et donc, il a précisé ses caractéristiques de l'art africain et aussi en poésie maintenant. Pour lui, la poésie, l'art du langage, parce que pour lui, la poésie, c'était l'art du langage, avant d'être l'art de l'écriture. La poésie se caractérisait aussi, donc, par la pratique du symbole, l'image idée, le rythme aussi, n'est-ce pas? Un rythme, encore une fois, particulier, qui n'était pas lié à la rime, mais qui était lié à une certaine scansion, comme chez les Grecs, et à l'accent tonique.
L'accent tonique, oui.
Donc, il a beaucoup spéculé sur ces choses-là. Il y a eu des thèses faites maintenant sur chacun de ces aspects. Et c'est sûr qu'il avait ses idées très, très précises sur la négritude de la poésie. Maintenant, par ailleurs, pour lui, la négritude ne s'arrêtait pas là. Il y avait aussi une négritude, enfin, il y avait une manière nègre, une manière africaine de voir le monde. C'est ce que Sartre appelle l'être dans le monde du noir. N'est-ce pas? Et là, par là, Senghor entendait certainement un côté religieux, presque automatique, disons instinctif, un côté religieux instinctif, très généralisé. Et ce sentiment religieux était pas seulement par rapport à une force supérieure, ou à un dieu, ou à une transcendance, mais aussi ça comportait le côté pious vis-à-vis de l'ancêtre, n'est-ce pas, ce côté de plus grande attention qu'on porte à l'ascendance. Par rapport à la mort aussi, Senghor avait une très ferme croyance qu'on ne mourrait pas, n'est-ce pas, que la mort n'était qu'un passage vers une autre vie, et ce n'était pas seulement une idée chrétienne, parce que ce qui donne parfois le flou de la pensée de Senghor sur ce plan-là, c'est que il est en même temps un catholique pratiquant. Mais non, il n'y avait pas seulement ça, ça dépassait le christianisme. Pour lui, la mort, les morts plus exactement, ne sont pas ni au purgatoire ni au ciel. On peut dire qu'il a une vision animiste de la mort. Le mort est là dans la concession, n'est-ce pas? Et il reste très présent. Et on est en contact. Le vivant garde un contact réel avec le mort. Et ça avec donc certains morts qui restent eux aussi en contact avec eux.
Avec le respect des morts.
Il y a le respect, il y a un certain culte et il y a aussi donc le contact. C'est très important le contact, c'est ce qui pour nous est le plus difficile à comprendre, n'est-ce pas, pour nous même chrétiens. Pour l'animiste, c'est très normal,
oui.
Hein, c'est très vécu. Et c'est pour ça que je dirais que Senghor avait une conception animiste de la mort. Maintenant, il y a aussi une autre conception qui est purement animiste, qui était cette fusion avec le cosmos. Et ça, nous avons chez Césaire aussi, bien que Césaire ne soit pas africain, on peut dire que la négritude chez lui s'exprime de la même façon. Une sensation, donc, un sentiment qu'on fait partie de ce monde intimement et qu'on n'est pas un objet séparé du monde, n'est-ce pas? Pas plus qu'on est un objet séparé de son voisin. Il y a ce côté fusionnel avec la nature, avec les arbres, avec les fleurs. Senghor dit lui-même, je suis un Congo bruissant.
Mais qui va avec toute la culture africaine, c'est voilà. L'attention qu'on porte effectivement à la nature,
exactement.
À la faune, à la flore.
Oui,
l'idée qu'on ne fait plus qu'un avec l'élément qui nous entoure.
Oui, en tout cas, chez Senghor, c'était très vécu. Très vécu, et pour lui, les éléments autour de lui ne sont pas étrangers à l'homme. Voilà, on est en connivence avec ces éléments. Ou au contraire, on est en perturbation. Et alors, il faut faire certains rites pour qu'on vous remette en connivence. Ensuite, la négritude, finalement, pour Senghor, avait aussi un aspect social.
Social.
Et c'était la fameuse solidarité africaine. Le sentiment de la famille, très très fort, du clan. Et
de l'entraide.
Et l'entraide. N'est-ce pas? C'est pourquoi son social. Il était assez naturellement socialiste, disons. Il s'est retrouvé dans le socialisme. Il s'est retrouvé dans cette vision du monde assez égalitaire, assez partageuse, disons. Lui-même, Senghor, était un homme extrêmement généreux et était connu pour, comme tel dans le milieu des étudiants, n'est-ce pas ? Il y a donc aussi chez Senghor ce côté-là. Pour lui, la négritude, c'est tout ça. Il pouvait disserter pendant très longtemps sur chacun de ces aspects. De même que la politique, la vision politique était marquée par la négritude.
C'est là que je voulais en venir.
Parce que pour lui, la politique était pour le développement, était pour la culture. Et non pas l'inverse.
Alors la négritude, le côté politique de la négritude, il y avait une scission entre Aimé Césaire et puis Senghor. Hein.
Césaire... Pas vraiment, mais non. Oui, ils ont eu des démarches politiques différentes. Parce qu'ils étaient dans des contextes tout à fait différents. Senghor est devenu chef d'État et il avait donc en main toute la liberté, ou en tout cas une beaucoup plus grande liberté d'orienter la politique de son pays, tandis que Césaire a toujours été citoyen français. Et bien qu'il ait voté pour cette départementalisation qui donnait aux Antillais un statut absolument incomparable avec le précédent, qui était celui de coloniser, malgré ça, Césaire a quand même toujours été très lié par les lois françaises, par la législation, les réglementations, une vision du monde typiquement française, imposée par la politique française. Et lui-même, en tant que député, il était député français. Hein? Mais peut-être en tant que maire, il se rapprochait davantage de Senghor, puisqu'il a été maire de Fort-de-France, et pour lui, vraiment, il a eu très grand souci d'organiser cette ville en fonction d'un peuple. Et donc, construction de bâtiments, construction d'hôpitaux, construction d'infrastructures, etc. Et Senghor avait ce souci aussi, n'est-ce pas ? Et les premiers grands développements des maisons populaires, des maisons pour petite classe moyenne, petits employés, c'est Senghor qui a lancé ces grands projets dans son propre pays.
Et là encore, pour les deux, il y a le pardon qui va avec, puisque sans complexe, que ce soit Senghor ou Césaire, il propose finalement une collaboration avec le colonisateur, alors que
oui, c'est beaucoup moins facile pour Césaire que pour Senghor. Je ne sais pas si pour Senghor ça aurait été tellement facile.
En tout cas, il y a ce pardon, en tout cas, cette valeur du pardon.
Il y a ces valeurs de pardon, ou disons de tolérance, de compréhension, de résignation parfois. On ne peut pas généraliser.
Oui.
On ne peut pas dire qu'à tout moment, Césaire pardonne à la France ou à l'Occident. Parce qu'il y a, des blessures qui sont faites presque inconsciemment par celui qui les fait. Donc, on ne peut pas lui en vouloir et en même temps, on ne peut pas les oublier. Et Senghor, je crois, c'est la même chose. Seulement, Senghor, je crois que c'était plus dans son tempérament. C'était quand même plus dans son tempérament de pouvoir pardonner un certain nombre de choses. En particulier, il y a tout ce grand problème des tirailleurs sénégalais. Mais il faut savoir lire un recueil de poèmes comme Hostie Noire. C'est bien là-dedans qu'il dit « je pardonne à la France » et il le dit à plusieurs reprises. Mais tout l'ouvrage est un acte d'accusation, si on sait lire. Il est évident que tous ces poèmes aux tirailleurs sénégalais qu'il exalte et dont il déplore le manque d'intérêt et de reconnaissance que la France a vis-à-vis d'eux, mais les poèmes s'alignent et disent tous la même chose. Hein? Et ce n'est qu'au tout dernier qu'il dit « bon, je pardonne à la France hein? ».
Mais il y a déjà avant quand même...
a voulu retenir seulement la fin, mais tous les autres poèmes qui ne pardonnent rien et qui se plaignent et qui à certains moments sont révoltés ou qui accusent, ceux-là, on veut les oublier. C'est un peu facile. Senghor est quand même, justement, sur ce plan-là, celui qui, le premier, je crois, s'est battu pour le problème des pensions des tirailleurs, n'est-ce pas, que la France tardait à verser après la guerre.
Alors Liliane Castello, est-ce qu'aujourd'hui la négritude est encore là ? Est-ce qu'elle est encore latente ? Est-ce qu'elle est encore vivante, cette négritude ?
Elle a pris d'autres formes. Bien entendu, la plupart des écrivains qui vous demandaient cela vous diront non, la négritude est dépassée depuis longtemps. Elle a pris d'autres formes dans la mesure où vous prenez les définitions que je vous ai données. Plus que jamais, je crois, l'Afrique revendique sa culture. Tous les ans, par exemple, à Dakar, on a une biennale sur l'art africain. Tous les deux ans, les peintres, les sculpteurs, les musiciens africains sont sans cesse en France en train de faire des tournées. Qu'est-ce qu'on leur demande ? C'est de la musique africaine, c'est évidemment pas du Mozart. Et nous avons donc, sur ce plan-là, la culture africaine se développe. Bien qu'elle soit fortement concurrencée par les importations de l'Occident, elle se défend, y compris maintenant les valeurs religieuses, y compris maintenant les valeurs solidaires. On passe son temps à dire les Africains sont des pensiers, ils sont incapables de faire, par exemple, des économies. Ils ne peuvent pas faire de l'épargne. Ils ont une très grande difficulté. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont toute la famille à la maison. Celui qui a un salaire nourrit tous les autres. Hein? Et il est hors de question dans l'esprit africain de mettre quelqu'un de la famille dehors sans lui avoir donné à manger. A fortiori s'il n'a pas de travail, a fortiori s'il est dans le besoin. Hein? Donc, on a là des dimensions de la négritude. Ça, c'est vraiment une dimension de la négritude. J'emploie ce mot à dessein. Des dimensions de la négritude qui modifient, qui modèlent la façon de vivre encore aujourd'hui des Africains. Et même en France. Tous ces Africains qui viennent travailler ici pour envoyer les trois quarts, n'est-ce pas,
de leur paye,
maigre, de leur SMIG, et qui envoient ça au village, n'est-ce pas, et qui préfèrent vivre en foyer extrêmement inconfortable avec d'autres travailleurs plutôt que de se louer un appartement ou un studio pour pouvoir avoir davantage d'argent envoyé à la maison en Afrique. Bon, c'est significatif aussi. Hein, je ne crois pas que c'est vraiment une façon de voir occidentale généralisée. Ce n'est plus, en tout cas.
On marque une courte pause, Liliane Castello. On se retrouve tout de suite après pour parler de la francophonie, de la francité et tout ce qui va avec. À tout de suite.
Pierre Cardin a révolutionné le monde de la mode et de la haute couture jusqu'au mobilier et à l'art contemporain. Et l'artiste est venu dans nos studios pour se raconter comme créateur, comme mécène, de sa jeunesse à son élection à l'Académie des Beaux-Arts. Et pour le clin d'œil, il raconte même qu'il a conçu les habits verts de plusieurs de ses confrères académiciens. Pierre Cardin, artiste, Pierre Cardin, mécène, et en outre, plusieurs interviews des lauréats des prix Pierre Cardin. Nous vous proposons en tout 3 émissions sur l'homme qui a fait entrer la haute couture à l'Académie des Beaux-Arts.
Suite de notre focus en compagnie de Liliane Castellotte, qui est professeure à l'Université de Dakar en littérature comparée, littérature africaine, et chercheure en littérature orale. Alors, Liliane Castellotte, on vient de parler très longuement de la négritude. Je viens de taminer sur la question de savoir si cette négritude existait. Aujourd'hui, sous quelle autre forme existe cette négritude ?
Ben, aujourd'hui, on emploie d'autres mots, tout simplement. Hein, on dira l'africanité. Certains ont voulu donner d'autres mots comme le négrisme, la négrité, mais vraiment ça ne correspondait pas. L'africanité est quelque chose de plus souvent employé. On parlera aussi beaucoup d'identité culturelle, tout simplement.
Identité culturelle
africaine, de culture africaine. Et tout récemment, maintenant, on emploie énormément le mot de renaissance africaine, et qui est même repris en politique par les leaders, les chefs d'État de l'Union africaine. Et bien que la négritude soit toujours, et toujours été combattue, il y a eu beaucoup de spéculations là-dessus, je vous dis, le fait reste. Un de mes jeunes collègues, Amadou Li, me disait l'autre jour que la négritude existera tant qu'il y aura des nègres. C'est peut-être pas tout à fait vrai. Je crois que tant qu'il y aura en tout cas une culture africaine, effectivement, il sera difficile d'éliminer cette dimension. On peut prendre ça comme définition générale, comme caractéristique des comportements et pensées, des savoirs africains, des modes de vie africains.
Dernière question, et après, effectivement, on va peut-être aborder quand même la francophonie. Dernière question, est-ce que vous pensez que ce terme d'identité culturelle, qui avant donc s'appelait négritude, est-ce que vous pensez qu'il faut être noir pour parler de la négritude ?
Non, mais écoutez, je vous demanderai, c'est la même chose, un poète qui vous parlera de vos cheveux blonds et de vos yeux bleus, est-ce qu'il faut être blanc pour qu'on vous parle de vos yeux bleus ? Mais oui. Et de même, le corps fait partie de la vie, de l'être dans le monde. Il ne faut pas être noir théoriquement, mais concrètement, c'est difficile de parler de cheveux frisés ou bien justement, regardez par exemple ce magnifique poème de Senghor, « Femme noire, femme nue, la lumière fait étoile sur ta peau, etc. Ben, » je regrette, ces images sont liées à la couleur. Ça n'a rien de raciste. C'est tout simplement comme dans Baudelaire. Baudelaire, quand il parle de sa maîtresse noire, il parle aussi de sa couleur. Donc, vous voyez, c'est quand même un petit peu délicat, votre question. Oui. Il y a effectivement, la couleur joue. Hein, la couleur joue dans la négritude, mais comme élément de l'existence. Il faut pas nécessairement être noir persécuté, bien sûr. Et j'espère bien que cette négritude-là disparaîtra.
Alors maintenant, nous allons pouvoir aborder un autre thème. Cette année 2006, c'est l'année Senghor, l'année de la francophonie. Et effectivement, Léopold Sédar Senghor était vraiment l'ambassadeur de la francophonie. Il disait quand il était petit qu'il mangeait les mots comme de la confiture.
Oui, je n'aime pas ça du tout.
Vous n'aimez pas.
Et pourquoi ? Ça a fait rigoler tout le Sénégal quand un écrivain récemment avait repris cette formule. C'est un peu idiot, quoi. En réalité, je préfère une autre façon que Senghor a de parler de la langue française. Il dit, c'est une langue de gentillesse et d'honnêteté. Et j'aime bien cette modestie, justement, dans son expression. Pourquoi est-il devenu pourquoi a-t-il créé d'abord, n'est-ce pas, la francophonie? Car en fait, il l'a créé avec Bourguiba, avec Amani Diori et aussi le président de l'Indonésie, je crois, hein. Et nous avons donc créé ça dans les années 62, je crois, très 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 vite après l'indépendance. On dit que De Gaulle n'était pas très chaud, ça lui a quand même fait plaisir, je pense.
Oui, bien sûr.
Et après, il s'en est bien servi. Mais en réalité, pourquoi est-ce que Senghor fait ça alors que nous allons vers l'indépendance? D'abord parce que cette indépendance se fait d'une façon qui ne lui plaît pas. Il a rêvé, comme tous les panafricanistes, il a rêvé d'un État fédéral, n'est-ce pas, pour toute l'Afrique noire ou au moins pour l'Afrique de l'Ouest.
Oui.
Vous saviez que du temps des Français, il y avait l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, deux grandes régions où se départissaient les différentes nations d'Afrique. Donc, il a souhaité ça. Les Africains n'en ont pas voulu, les députés africains n'en ont pas voulu. Chacun voulait rester dans son pays et en avoir la direction totale. Donc, Senghor a dû se contenter du Mali, c'est-à-dire du premier essai de fédération avec la République du Mali. Et ça n'a pas marché.
Finalement, ça a explosé. Hein.
Mais son intention, quand même, était là. Et il était vraiment le seul qui était d'accord pour faire une grande fédération. Donc, quand on décide de donner des indépendances séparées, pour lui, la francophonie était une manière de rattraper les choses. Voyez-vous ? De garder un lien structurel avec cette communauté française qui avait existé avant, cette communauté franco-africaine qui avait existé avant, et où circulaient aussi bien les marchandises, n'est-ce pas, que les idées, l'instruction, la culture, etc. Il faut bien vous dire que venait à Dakar, Dakar était une capitale régionale, n'est-ce pas? Il avait été capitale de l'AOF. Et c'est peut-être pour ça aussi que Senghor, c'est pas faux, c'est peut-être pour ça sans doute que Senghor aussi désirait garder cette espèce de communauté africaine. Ensuite, pour lui aussi, ça a été une façon de donner un statut au Sénégal. Un statut égal aux autres pays francophones. C'est-à-dire un statut égal finalement au Québec, ou à la Belgique, n'est-ce pas ? Ou à la Tunisie.
Donc la francophonie avec un grand F, avec un F majuscule.
Voilà. Cette francophonie a donné naissance à une série de regroupements par discipline aussi, regroupements des ministères d'éducation qui se rencontraient tous les ans ou tous les deux ans, regroupements des parlementaires, regroupements linguistiques, regroupements aussi des universités. D'où l'Agence universitaire de la francophonie, n'est-ce pas? Qui est quand même très utile dans la coopération interuniversitaire en Afrique, n'est-ce pas?
Donc finalement, plus qu'une valeur culturelle, la francophonie, au départ, c'était aussi une valeur diplomatique, quelque part.
Absolument, absolument. Elle s'est d'ailleurs politisée de plus en plus, avec le temps. Parlons du côté langue française, évidemment, la francophonie. Pourquoi les pays de langue française? Comme je vous dis, parce qu'ils avaient déjà été réunis avant. Hein, c'était une union, je dirais presque naturelle. Et pourquoi maintenant la langue française particulièrement? Mais parce que, n'oubliez pas que Senghor est professeur de français.
Tout à fait.
Hein, c'est tout à fait normal qu'il aime cette langue. Il a fait ses études là-dessus, comment peut-on... Il est grammairien.
Hein, agrégé.
Et il connaît le français, mais dans ses fondements, puisqu'en plus il a fait des études grecques.
Grec, latin,
effectivement. Et il connaît donc toutes les étymologies, il pouvait remonter. Il lisait d'ailleurs, M. Alain Decaux vous rappelait l'autre fois, qu'il lisait le grec, il pouvait en réciter par cœur des passages entiers de certains grands auteurs grecs. Et donc, nous avions là, chez Senghor, une très forte culture classique. Comme chez Césaire d'ailleurs, ils ont à peu près vraiment la même formation. Et chez Senghor, il y a donc ce goût du français, et du beau français, du français exact. Il a été tyrannique pour le journal Le Soleil, qui était le journal officiel à ses débuts de l'indépendance, dont il contrôlait l'orthographe et les tournures de syntaxique, et dont il morigénait sévèrement les gens lorsqu'il faisait des accros dans ce journal. Il y avait aussi, je crois, autre chose chez Senghor qui faisait que le français lui semblait important. En plus, évidemment, de sa préférence personnelle d'écrire le français. Pourquoi écrivait-il le français plutôt que le sérère? Ben parce qu'il avait été alphabétisé en français.
Parce que voilà, il faut préciser qu'aujourd'hui, qu'il parlait sérère au
dans
départ.
Dans presque tous nos pays africains, on est alphabétisé en français. C'est un résidu colonial, mais un résidu colonial qui dure. Donc, la plupart des enfants, etc., connaissent mieux la langue écrite française et sont assez dépaysés, dépassés devant leur propre langue. Seulement, leurs propres langues sont différentes chacune. Et l'avantage du français, je vous dis, le désavantage, c'est peut-être justement que pour l'instant, aucun des pays n'a fait l'effort nécessaire, sauf le Mali peut-être, pour alphabétiser et enseigner les enfants aussi dans leur langue, en Bambara,
pratiquement. Tout à fait, le Bambara.
Mais les autres pays se sont contentés de garder l'ancien système, et finalement, ces langues orales restent orales pour la plupart. Et
finalement, le français annihile les autres langues.
Voilà, il a donc ce côté un peu inhibiteur des autres langues. Mais c'est une inhibition qui est fausse, parce que par ailleurs, les autres langues se vengent. Et actuellement, le français, pourquoi vous dit-on que le français est en recul très 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 marqué en Afrique francophone? Vous avez entendu parler de ça quand même. Pourquoi? Eh bien parce que justement, les autres langues reprennent du poil de la bête, si l'on peut
parce
dire.
Parce que c'est une partie d'identité culturelle.
Voilà.
C'est une manière de s'affirmer.
C'est une manière de s'affirmer et de revendiquer sa négritude. Et on y est de nouveau. Voilà, parce que la langue fait partie intégrante de la culture. Et c'est ça que peut-être la politique française a oublié. Hein, c'est qu'on ne pouvait pas impunément amputer un peuple de sa langue. Cette langue a continué à vivre et à de plus en plus, si vous voulez, après les indépendances. Et c'est le français qui a reculé. Je crois que la France avait pensé le contraire. Mmh. Croyait que ces langues allaient s'éteindre et laisser place au français. C'est le contraire. C'est le français qui a reculé. Alors, pourquoi l'intérêt de la francophonie aujourd'hui? Et Senghor devait certainement avoir perçu ça. C'est que précisément, dans la mesure où de plus en plus, le français recule, il recule en se déformant. Et il prend de plus en plus des éléments des langues locales. Mmh. Il se métisse. Il se folklorise, il se créolise. D'où le danger qu'avait perçu Senghor, que ces différents français, en se différenciant, n'est-ce pas, sous l'influence des langues orales, le français allait ne plus être compréhensible et ne plus être donc facteur de communication.
Un mélange de
aussi bien entre les pays d'Afrique entre eux que entre les pays d'Afrique et l'Occident. Hein, parce que il est un fait, exactement comme le Canada, regardez, le joual, qui est le processus abouti de la créolisation du français au Canada. Le joual, ben, lorsque vous voyez un film canadien aujourd'hui, vous êtes obligé, pour bien comprendre, de regarder le sous-titre. Ils sont tellement intelligents, les Canadiens, qu'ils mettent le sous-titre en français. Et pourtant, ça parle un dialecte francophone. Eh ben, nous allons arriver à ça en Afrique. On parlera un français sénégalais, un français camerounais, un français congolais.
Un métissage.
Un métissage. Mais sapristi, dès qu'il faudra communiquer, qu'est-ce qu'on va parler? D'où la nécessité de maintenir la francophonie, n'est-ce pas, en tant que français standard. français permettant langue de grande communication, langue d'écriture, tout en souhaitant qu'évidemment les langues nationales commencent à être écrites aussi. D'ailleurs, il y a déjà actuellement des efforts qui sont faits dans ce sens. Il y a des écrivains qui se forcent, qui s'obligent à écrire dans leur langue et qui en ont beaucoup de plaisir, hein, comme Boris Diop par exemple ou James Gogi au Kenya. Mais dans l'ensemble, ceux qui écrivent en français essayent tout de même, bien qu'il y ait les tendances d'africaniser cette langue écrite, hein, ils essayent tout de même de rester compréhensibles, de garder un français lisible.
Hein. Alors justement, pour continuer sur cette lignée, et peut-être pour terminer, puisque notre émission se termine, Léopold Sédar Senghor parlait de francité. Qu'est-ce que la francité, Liliane?
Je crois que la francité, c'est la négritude. Si vous voulez, c'est du côté français, là, c'est-à-dire les valeurs françaises.
Une affirmation?
Même pas, l'existence. La francité, c'est l'existence de la culture française, je crois. Pour lui, il n'y a pas de problème. Dans la négritude, il y a l'idée d'affirmation.
Oui.
En plus. Dans la francité, je ne pense pas. Et dans la francophonie, c'est simplement une institution.
Une institution.
Une institution. Et il y a une politique dans cette institution, il y a des tas de choses. Mais c'est l'institution des gens qui ont le français en partage, comme on dit, n'est-ce pas? La francité, c'est ça. C'est la culture française, c'est la manière d'être français. Hein, c'est l'identité culturelle française. Comme on a l'identité culturelle néerlandaise ou l'identité culturelle slave.
Une identité
et pour, que je crois que la négritude, il la vivait comme ça, c'est l'identité culturelle nègre.
Et alors, Senghor se sentait à la fois dans le courant de la négritude, et il y avait aussi un pied dans la francité.
Absolument, absolument. Il est biculturel, il est biculturel comme il est bilingue. Il est bilingue.
C'est une gymnastique qui ne devait pas forcément être évidente. Ne serait-ce que pour
le
regard.
Tout le monde n'est pas comme ça.
Ne serait-ce que pour le regard des Sénégalais le concernant.
Bien entendu, on l'a souvent accusé d'être toubab, comme on dit.
Toubab.
Mais il n'est pas le seul, vous savez. Moi, j'ai beaucoup de collègues africains qu'on accuse de la même façon parce que ils parlent le français à leurs enfants. On va maintenant les accuser d'être toubab parce qu'ils parlent le français à leurs enfants. Et ils parlent le français pour que les enfants parlent le français. Sinon, ils savent bien que les enfants, à un certain moment, vont décrocher. Déjà dans la rue, tout le monde parle la langue nationale. On ne parle plus le français dans la rue. Donc,
alors on parle le Wolof?
On parle le Wolof en général. Et chez les Peuls, on parle les Peuls. On parle le Peul. Chez les Diola, on parle Diola. Les Bambara parlent Bambara. C'est normal. Hein, c'est leur langue.
Eh bien, merci Liliane Castello de nous avoir accordé tout ce temps pour nous avoir éclairé donc sur le sujet de Léopold Sédar Senghor et la francophonie, Léopold Sédar Senghor et la négritude. On se retrouve un peu plus tard dans notre boucle pour parler de la Fondation Senghor. Merci, à très bientôt.
À bientôt.